France Culture.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les Envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Bien qu'elle fût d'une taille exceptionnellement petite, moins d'un mètre cinquante et sans prétention à la beauté, sa démarche et son comportement étaient remarquablement naturels, modestes, gracieux et empreints de dignité, tandis que son élocution distincte et parfaitement modulée captivait son auditoire. « Je ne saurais vous décrire, » raconta le conseiller privé du parti conservateur John Crocker, pourtant loin d'être un critique indulgent, « avec quel mélange d'assurance et de délicatesse féminine elle a lu le document ?» Sa voix, naturellement belle, était claire et posée, et son regard, brillant et serein, n'était ni hardi, ni baissé, mais ferme et doux. Un léger rougissement sur sa joue la rendait à la fois plus jolie et plus touchante. Et en vérité, elle comptait parmi les plus charmantes et captivantes jeunes filles que je n'ai jamais vues. Elle ne se contentait pas d'occuper son siège, déclara le duc de Wellington quelques heures plus tard. Elle remplissait la pièce. Pendant toute la cérémonie, elle se comporta comme si elle avait toujours été familière avec son rôle.
Cette femme a régné sur le plus grand empire de tous les temps. Un empire maritime et terrestre de 35 millions de kilomètres carrés répartis sur 5 continents, qui a compté jusqu'à 450 millions de sujets à son apogée. Née en 1819, reine de Grande-Bretagne, d'Irlande à 18 ans, Victoria va aussi devenir reine du Canada, impératrice des Indes et reine d'Australie avant de mourir en 1901. Sa vie embrasse donc tout le 19e siècle ou presque. Son nom personnifie une époque. Elle incarne aussi une domination militaro-industrielle de l'Europe sur le monde. Et d'ailleurs, nous venons d'écouter une description de son couronnement en 1837, texte issu de Queen Victoria, A Biography, publié en 1904 par Sidney Lee et lu pour nous par Daniel Königsberg. Alors, pour évoquer la figure singulière de la reine Victoria, j'ai avec moi trois éminents spécialistes de cette grande Bretagne victorienne, dont l'ombre portée persiste jusqu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la langue anglaise parlée dans le monde entier et par le cricket joué aux quatre coins du monde. Philippe Chassaigne, bonjour.
Bonjour.
Fabrice Ben-Simon, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour commencer à comprendre qui est vraiment Victoria, quelle est sa vision du monde, je me tourne vers ma première invitée, Béatrice Laurent, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, vous êtes professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, où vous enseignez la civilisation britannique de l'époque victorienne. Vos investigations en histoire culturelle portent sur la confluence entre les textes scientifiques et littéraires, mais aussi sur l'imaginaire collectif d'une époque. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la période, dont la monographie « Water and Women in the Victorian Imagination », parue aux éditions Peter Lang en 2021. Alors, peut-être ma première question, c'est qui est la jeune Victoria qui accède au trône dans cet extrait que nous venons d'entendre, donc en 1837 ? Est-ce qu'elle a eu une enfance normale ou même, disons, épanouie et heureuse ?
Eh bien, la jeune Victoria qui accède au trône, on l'a vu, est une toute jeune femme. En réalité, elle attendait ce moment puisque dès l'âge de 10-11 ans, elle était prédestinée à devenir reine. Donc, son avenir était tout tracé. On savait, et elle savait qu'elle allait un jour succéder à son oncle, Guillaume.
Aucun de ses oncles n'ont d'enfant, en fait, c'est ça ?
C'est ça. Disons que si son premier oncle a eu une fille qui s'appelait Charlotte qui est décédée voilà, en 1817. Donc, un coup du sort, ses trois oncles aînés ont décédé. Elle est la fille du quatrième fils du roi George III. Et son père étant décédé, la couronne revient à Victoria lors de ses 18 ans. Ce qui est une très bonne chose pour elle. Elle attendait cela parce que, pour revenir sur votre question portant sur son enfance, elle n'a pas eu une enfance particulièrement heureuse, pas malheureuse non plus, mais disons une enfance très...
Très particulière.
Oui,
très... C'est quoi ce système de Kensington mis au point autour d'elle ?
C'est un système mis en place par sa mère, donc la duchesse de Kent, et l'allié, le conseiller, l'amant peut-être. Il y a eu des rumeurs, personne n'est sûr de ce fait, mais on pense que John Conroy était très influent auprès de la duchesse de Kent. Donc, ces deux personnages ont entouré Victoria, la jeune fille Victoria, et l'enfant Victoria, d'une grande surveillance. Elle a été très, très surveillée, très diligentée, avec une éducation très stricte. Beaucoup de choses lui étaient interdites. Par exemple, elle n'avait pas le droit de descendre les escaliers seule. Il fallait qu'elle donne la main de quelqu'un, de peur de se blesser. Elle n'avait pas le droit de manger ce qu'elle voulait. Il fallait que ses plats soient goûtés avant elle. Elle n'avait pas le droit de jouer ou de sortir, bien sûr, du palais de Kensington où elle est née.
Elle était enfant unique. Son père est décédé quand elle avait quoi ?
Même pas un an.
Oui, c'est ça. C'est très solitaire, finalement.
Très solitaire. Effectivement, donc à part sa demi-sœur aînée, puisque sa mère était veuve d'un prince allemand avec qui elle avait déjà deux enfants, c'est pour ça du reste que son second mari, le duc de Kent, l'a choisi, puisqu'elle était susceptible de produire une descendance, tout à fait. Donc, et ça a fonctionné, puisque Victoria est née juste à temps pour assurer la succession. Donc, non, pas une enfance particulièrement heureuse. Elle-même décrira plus tard son enfance comme « melancholy childhood ». Donc, il lui tardait...
Une enfance mélancolique.
Tout à fait. Triste. Donc, il lui tardait de s'émanciper, de se débarrasser de sa mère, et surtout de John Conroy.
Je me tourne vers vous, Philippe Chassaigne. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils avaient peur de perdre l'héritière, ou c'était une forme d'emprise, on dirait aujourd'hui ?
Non, c'est une forme d'emprise, oui. En fait, le rêve secret de la duchesse de Kent, c'était que Guillaume IV, qui était déjà plutôt jeune, puis en très bonne santé, décède avant que Victoria ait atteint sa majorité. Elle aurait été la régente. À la mère de la nouvelle reine, mais bon, qui aurait été mineure, donc régente. Et pour elle, c'était un rêve de pouvoir. Donc après, bon, ayant vu que Guillaume IV décède juste après que Victoria a atteint 18 ans, bon, ce qu'elle espère, c'est avoir quand même conservé une influence sur sa fille. Et Victoria, elle s'est révoltée contre cette tutelle qu'elle trouvait pesante. Lorsqu'elle s'installe au palais de Buckingham, elle met les appartements de sa mère le plus loin possible des siens. Et en revanche, pendant cette enfance, elle a compensé le déficit de contact humain en reportant son affection sur les animaux, et notamment sur les chiens. Et donc, c'est le début de la longue histoire d'amour entre Victoria et les animaux.
Est-ce qu'on peut dire que c'est d'ailleurs l'initiation de cette passion anglaise pour les animaux? Est-ce que ça vient de Victoria, ou est-ce que c'était déjà dans la société? Je vous pose la question, Béatrice Laurent.
Je pense que ça existait déjà, puisque ils avaient de toute façon beaucoup de chevaux, et la reine Victoria aimait beaucoup monter à cheval, plus tard à poney, parce que... Bon. Mais en tout cas, elle aimait beaucoup les animaux. C'était quelque chose qu'elle partageait effectivement avec sa famille, et surtout avec son mari, avec Albert, qui lui-même était quelqu'un qui aimait beaucoup les loisirs simples, la vie à la campagne, les chiens, les chevaux et son jardin.
Alors justement, donc elle se marie très jeune. Sa mère est une Saxe-Cobourg, une princesse allemande. Sa gouvernante est une baronne allemande. Bon, son père est mort, mais c'est un Allemand quand même fondamentalement.
C'est la lignée de Hanovre.
Oui. Voilà. Qui est-ce qu'elle épouse ? Elle épouse son cousin Germain, qui est aussi un Saxe-Cobourg. Je me tourne vers vous, Fabrice Ben-Simon. Comment est-ce qu'on explique l'omniprésence germanique en Angleterre dans ce premier 19e siècle?
C'est un héritage du 18e siècle. Et la lignée des Hanovres, en effet, il y a cette descendance de Georges III dont elle fait partie. À l'époque, l'Allemagne n'est pas une puissance inquiétante pour la Grande-Bretagne. Il y a toute une évolution au cours du règne de Victoria. Dans cette relation, l'Allemagne n'est pas unifiée quand Victoria monte sur le trône. Et au fil des années, y compris un petit-fils de Victoria, qui deviendra empereur d'Allemagne, Kaiser, progressivement apparaît comme une menace et comme une puissance rivale, ce qui n'était pas du tout le cas à cette accession. En fait,
l'ennemi, c'est la France à l'époque ? Alors, c'est le catholicisme.
Disons que les guerres napoléoniennes, qui sont quand même relativement récentes quand Victoria naît, à son éducation, en effet, on consacrait cette opposition à la France, au catholicisme, et puis
puisque Victoria, rappelons-le, donc, est protestante.
Bien sûr, elle a une forme de protestantisme évangéliste, donc l'anglicanisme. Elle est assez broad church quand même, elle n'est pas dogmatique. Hein. C'est quelqu'un
Est-ce que ça veut dire broad church?
C'est-à-dire assez ouverte, assez ouverte, oui. À l'époque, l'Église d'Angleterre est divisée en trois factions. En gros, il y a high church, low church et broad church. Elle se méfie beaucoup des high church qu'elle soupçonne d'être papistes, justement, parce qu'ils aiment ce rituel, ce faste.
Et pour revenir sur donc son mari, comment est-ce qu'elle se choisit ou comment est-ce qu'on lui choisit, Albert?
Alors, c'est en grande partie son oncle Léopold, leur oncle commun, hein, qui est le frère en même temps de la mère de Victoria et du père d'Albert. Donc, l'oncle Léopold Ier de Belgique œuvre un petit peu pour les rapprocher. Et ça fonctionne très bien puisque Victoria tombe éperdument amoureuse de cet Albert qu'elle trouve absolument séduisant. Et c'est elle qui va lui demander sa main en réalité en 1840. Ah oui. Parce qu'en tant que monarque, on ne peut pas demander la reine en mariage. Donc elle demande, elle fait sa proposition à Albert, qu'il accepte, et ils sont mariés en 1840, un mariage particulièrement heureux, équilibré, et d'où naîtront 9 enfants.
9 enfants. Mmh. Et que Victoria va marier habilement par la suite dans à peu près toutes les cours royales, au point qu'on va finir par l'appeler la grand-mère de l'Europe. En quoi est-ce que ce couple de Victoria et Albert, qui dure donc 24 ans jusqu'à la mort d'Albert, et qui, dont le décès d'ailleurs va plonger Victoria dans une profonde dépression, en quoi est-ce qu'il est, pensez-vous, représentatif de cette ère victorienne, de cette société victorienne dont Victoria est l'incarnation, hein.
Oui. Je pense que Albert, c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup influencé Victoria, qui d'une part a régné à côté d'elle. Du reste, à Osborne House, ils avaient leur bureau côte à côte, hein, dans la même pièce. Pour la bonne et simple raison que pour mettre au monde ses 9 enfants, Victoria était absente une bonne quinzaine d'années. Elle était enceinte pratiquement sans arrêt entre 1840 et 1857.
Là, elle s'est trouvée enceinte très très tôt après le mariage, ce qui la chagrinait. Elle ne pensait pas tomber enceinte aussi rapidement, mais bon, c'est comme ça.
Tout à fait. Et pour compenser un peu les absences ou les souffrances, les accouchements, etc. de son épouse, Albert a beaucoup aidé Victoria. Alors, lui était quelqu'un de libéral, de moderne, qui croyait foncièrement au progrès, à la technologie. C'est lui qui a œuvré pour la grande exposition de 1851. Et ça, ce sont des valeurs qu'il partageait.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Politiquement, quelle était la pensée de Victoria? Elle était plutôt progressiste, elle était pour les réformes électorales. Quelle est la pensée de cette jeune femme qui arrive au pouvoir?
Effectivement, elle était plutôt libérale, surtout étant jeune. Elle était influencée, bon, on l'a vu, par les hommes de qui elle était très proche, notamment son premier ministre, le premier premier ministre qu'elle ait eu, qui était Lord Melbourne
oui.
Et qui était Whig. Donc, plutôt.
Whig, c'est-à-dire.
Plutôt libéral, oui. Enfin, l'ancêtre des libéraux. Et ensuite, par son mari Albert, lui aussi assez libéral. Et. Par son oncle Léopold. Donc, ces personnages masculins qui l'entourent vont la diriger dans cette opinion, même si par la suite, elle deviendra de plus en plus conservatrice, notamment après son veuvage.
Et donc, elle est relativement progressiste, mais en termes de... je vois que Fabrice Ben-Simon...
Non, mais elle est quand même femme de son rang, de sa classe, de son statut. Je veux dire, c'est une souveraine dont on sait par la correspondance et le journal privé qui a été très, très, très volumineux, qu'elle était quand même très opposée à ce qu'à l'époque on appelle la démocratie, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de la population ait accès au droit de vote.
Et en particulier, il faut quand même le noter, les femmes.
Elle était opposée au suffrage des femmes, elle était...
Parce que quand même, à l'époque, même les chartistes ne demandent pas le suffrage féminin. Ça, ouais. Les femmes, il est bien conçu qu'elles ne peuvent pas voter. Hein, le suffrage masculin uniquement.
Non. Victoria a quand même la particularité d'être une femme.
Et puis, elle s'oppose au suffrage des femmes 30 ans après les chartistes, alors que le suffrage des femmes émerge comme une revendication parmi tout un tas de... notamment tout un tas d'associations de femmes et au-delà. Donc, et puis sur la question du royaume, de l'Empire, de l'union avec l'Irlande, Elle adopte les positions, on pourrait dire, impérialistes de sa classe.
Justement, on va y venir. Peut-être que, Béatrice Laurent, c'est important de rappeler, parce qu'on a cette image de la monarchie britannique, un peu fleur bleue, un peu la reine Elisabeth, monarchie constitutionnelle. Victoria, elle a encore vraiment du pouvoir. Elle se considère comme une reine interventionniste. Elle n'est pas en train de regarder passer les trains, qui d'ailleurs n'existent pas. Comment ça existait ?
Oui et non. Disons que, pour revenir à ce que nous disions juste avant, c'est quelqu'un qui est le produit de son temps. Donc elle a bien sûr donné une couleur particulière à l'époque qui porte son nom, l'époque victorienne, mais elle-même en est un produit. Donc elle ne remet jamais en cause la théorie des separate spheres, par exemple, donc des sphères séparées entre les hommes et les femmes. Et en tant que femme, pour elle, c'est très important de prendre soin de son foyer, home. Et home, en anglais, ça décrit en même temps l'endroit où on vit, ça décrit la nation aussi. Et par extension, l'empire. Pour elle, tout ce qui est home, c'est son domaine et elle s'occupe des affaires de sa maison avec un grand M. Pour elle, ça, il va de soi que c'est sa responsabilité. Elle était prête à assumer ce rôle. Elle l'a fait, tout en écoutant la voix de ses conseillers, de ses ministres, etc. Donc c'est vrai qu'elle est expansionniste, mais pour autant, elle tient à avoir l'assurance de l'adhésion de ses sujets.
Et est-ce qu'elle est tant aimée que ça ? Parce que quand on regarde, c'est quand même étonnant de se dire, elle a subi quoi ? 8 tentatives d'assassinat ? 7 ou 8 ? Il y a des caricatures contre elle, elle n'est pas aimée, il y a l'histoire de la crise de la chambre à coucher, donc quand elle refuse les dames de compagnie qui sont des épouses d'opposants politiques, de gens dont elle adhère pas, elle ne croit pas à la politique. Est-ce qu'elle est appréciée de son peuple, en fait ?
Mais surtout, elle sera appréciée au moment de ces deux jubilés, je crois qu'ils sont ces deux événements phares, oui. Puisque on a vu la première partie de son règne est occupée en binôme avec Albert. Ensuite, elle disparaît un petit peu pendant les 10 années qui succèdent à son veuvage, où elle s'éclipse un peu de la scène publique. Et elle revient en
d'ailleurs,
force.
D'ailleurs, le public lui reprochera.
Tout
ça
à fait.
Ça a contribué à la montée du républicanisme et d'un sentiment anti-monarchiste.
En partie. Et elle revient en force à partir des années 70, notamment lors de ces deux jubilés, le jubilé d'or et puis de diamant, et bien sûr pour ces funérailles qui sont le point d'orchestre de cette
on y est pas encore.
Iconique. Oui.
Peut-être avant de parler, évidemment, qui est notre sujet, qui est l'impérialisme britannique qu'elle incarne aussi, qui fait partie de l'épopée victorienne. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de cette Grande-Bretagne dont hérite Victoria? Est-ce qu'elle est vraiment en position de... Bon, elle a contribué à vaincre Napoléon de manière assez décisive, bien sûr, Wellington à Waterloo. Quelles sont les conditions socio-économiques, militaires, industrielles de sa domination et de la domination extraordinaire qu'elle va développer au cours du siècle?
Mais déjà, lorsqu'elle accède au trône, la Grande-Bretagne est la première puissance économique mondiale. Elle va devenir une superpuissance sous le règne de Victoria, mais c'est déjà une puissance économique et technologique.
L'avantage, c'est le commerce, c'est la machine à vapeur. L'avantage compétitif de l'Angleterre?
C'est l'atelier du monde, comme on dit.
C'est aussi donc la marine de guerre.
Hein. La marine, les minerais. Et toute l'industrie, notamment l'industrie textile, mais pas que. Et ensuite, il y a toute la fabrication des machines, l'exportation de ces machines, et puis toute l'exportation du know-how, c'est-à-dire de la technologie, du savoir-faire, des finances, des assurances. Donc, ils exportent énormément de biens matériels, mais aussi immatériels. Ils ont besoin de l'Empire aussi pour s'approvisionner en matières premières et s'approvisionner en nourriture, parce qu'avec le boom démographique du 19e siècle, on n'arrive plus en Angleterre à nourrir toute la population. Non. Donc, ils ont vraiment besoin de cet échange.
D'où le passage au libre-échange entre 1840 et 1849. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du passage au libre-échange, c'était de recentrer l'agriculture britannique sur des productions à haute valeur ajoutée, le maraîchage, l'élevage, les rameaux fruitiers, etc. Et pour ce qui est de la consommation populaire, commercer avec aussi bien les colonies que des pays qui ne font pas partie des colonies. L'Amérique latine ne fait pas partie de l'empire colonial, même si elle est commercialement sous la houlette, la tutelle de la Grande-Bretagne. Et les États-Unis, bon bah le blé, il vient du Canada, une colonie des États-Unis qui n'est pas une colonie d'Amérique latine, qui n'est pas une colonie de l'Australie qui est une colonie. Quand on regarde sur l'ensemble du siècle, l'Empire a jamais représenté plus de 45% des importations et des exportations. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'Empire dépasse les 50% autant en tant que fournisseur que client.
Donc c'est, la reine Victoria est vraiment la reine de cette révolution industrielle, ce qui nous amène à écouter notre deuxième extrait.
Un nouveau chevalier de l'ordre du bain vient de faire le serment de protéger ceux qui souffrent et sont dénués de tout. Je demande à mes ministres si ce sont de vains mots et si ce serment est foulé aux pieds par les dignitaires de ce pays.
Majesté, c'est-à-dire l'ordre du bain a été institué au Moyen-Âge et il n'est pas toujours possible.
À partir d'aujourd'hui, ce sera toujours possible.
Ça n'est malheureusement pas si simple, Majesté.
N'ai-je donc pas d'autorité dans mon royaume ?
Majesté, ne vous souciez pas de ce genre de difficultés. Nous sommes là pour les résoudre.
Je veux m'en soucier, Lord Melbourne. Pouvez-vous nier que des enfants de 13 ans à peine sont forcés de travailler dans des fabriques 12 heures par jour ? Prétendriez-vous que le désespoir et la pauvreté, l'oppression la plus éhontée, sont inconnus dans le royaume d'Angleterre ? Oseriez-vous nier que...
Mais d'où votre majesté tient-elle ces informations ?
Je ne vous demande pas des questions, mais des réponses.
Majesté, pour trouver des solutions à ce malheureux état de choses, n'avons-nous pas le Parlement ?
Alors je veux que toutes affaires cessantes, on vote des lois qui améliorent les conditions de vie des pauvres gens. Vous entendez ? On votera ces lois, ou je renonce à continuer d'être reine.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'écouter un extrait du film « Les jeunes années d'une reine » du réalisateur autrichien Ernst Marischka, sorti en 1954. Alors pour parler de l'action politique et des accomplissements de l'ère victorienne, de cette ahurissante conquête et domination du monde, je me tourne à présent vers Philippe Chassaigne. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur de « La reine Victoria », une biographie de référence publiée chez Gallimard en 2017, mais aussi d'une histoire de l'Angleterre des origines à nos jours, publiée chez Flammarion en 2021, et d'une biographie de la reine Elisabeth II chez Gallimard en 2024. Alors, peut-être la première question, puisque vous êtes le double biographe des deux plus longs règnes de l'histoire d'Angleterre et d'ailleurs sans doute du monde, qu'est-ce que la reine Elisabeth II pensait de son arrière-arrière-grand-mère ?
Alors, bon, ça, on peut pas tellement le savoir parce qu'elle l'a pas exprimé publiquement du point de vue de façon très fréquente. Tout à l'heure, Fabrice parlait du journal intime de la reine Victoria. Elisabeth II en a tenu un aussi journal intime qui doit être comme la version intégrale de celui de Victoria dans les archives royales de Windsor et auquel les historiens auront accès dans je ne sais pas combien de temps. Bon, le journal de Victoria, c'est sa fille Béatrice en plus qui a fait une version expurgée, celle qu'on connaît, qui est publiée. Bon. Elle doit sûrement dire davantage de choses de Victoria dans ces moments face à face avec elle-même, ces moments d'intimité.
Bon. En termes d'institution, est-ce que c'est un référentiel quand même la pompe victorienne, l'institution monarchique?
Effectivement. Elle a toujours suivi le cérémonial de l'ouverture du Parlement. D'ailleurs, ceci dit, elle était beaucoup plus assidue que son arrière-arrière-grand-mère puisque Elisabeth II n'a manqué que deux ouvertures de Parlement quand elle était enceinte et vraiment dans un état suffisamment avancé pour qu'ils veulent mieux qu'elle reste au palais du Buckingham. Victoria, elle détestait faire l'ouverture du Parlement, donc généralement, je crois qu'elle a dû le faire 10 fois ou 11 fois au cours de son règne, je cite de mémoire. Donc généralement, c'était le Lord Chamberlain qui lisait le discours du trône à sa place. Bon, mais donc tout le cérémonial a été respecté. Bon, le couronnement d'Elisabeth II, suit à peu près le modèle de celui de la reine Victoria. Et puis, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que les deux châteaux préférés, les deux résidences préférées de la reine Elisabeth II, c'était les deux résidences préférées de Victoria, c'était le château de Windsor et le château de Balmoral où Elisabeth II est décédée. Bon,
la résidence principale, qui est le premier monarque à s'installer à Buckingham Palace.
Oui.
C'est quand même Victoria.
Oui, mais alors bon, Elisabeth II, Palais Buckingham, elle n'aimait pas trop. Hein.
C'est
la résidence officielle. D'ailleurs, Victoria était le premier monarque à s'installer au Palais de Buckingham, puisqu'il avait été sous le règne de George IV, achevé sous Guillaume IV. Et à peine installé, on s'est rendu compte que le château était trop petit, donc il a fallu construire une aile supplémentaire, qui est l'aile actuelle, aile S, sur laquelle il y a la façade où ont lieu toutes les apparitions officielles. Donc c'est la seule aile que les Français, enfin que les téléspectateurs spectateurs du monde connaissent, mais celle, c'est la plus récente. Elle date de 1847, quelque chose comme ça, si je me souviens bien.
Est-ce que Victoria était aimée de son peuple comme était aimée la reine Elisabeth?
Alors oui, pour revenir à ces questions-là, bien évident que des règnes aussi longs, ça ne va pas être, faut pas avoir une vue iréniste des choses. Hein, c'est pas, on passe à Nouvelle-Ville, hein, c'est pas ça. Donc il y a des moments de très grande popularité, des moments de dire finalement les deux règnes suivent un rythme à peu près comparable. C'est-à-dire qu'au moment de leur événement, les deux reines sont très populaires, elles sont jeunes, elles sont fraîches, innocentes, etc. Bon, ensuite, bon, la reine Victoria, 1840, elle épouse Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, encore un prince allemand, un désargenté. Bon, il y a le sentiment anti-français, hein, comme tu disais, Fabrice, mais il y a quand même aussi un sentiment anti-germanique qui est très présent. Bon. Même si la dynastie est effectivement la dynastie de Hanovre. Bon, donc ensuite, il y a des
Pense par exemple à la famine irlandaise 1845, la crise du mildiou, de la patate en Irlande, 1 million de morts.
Oui.
Et je me tourne vers vous, Fabrice, puisque Ben Simon, vous avez écrit sur le sujet. Elle a ce surnom terrible, Famine Queen. Elle est accusée d'avoir quoi, d'être complètement indifférente finalement à la mort de ses sujets. On l'accuse même d'avoir donné plus d'argent pour une charité pour les chiens à Battersea Park.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai cette histoire.
C'est vrai que oui, elle fait des œuvres de charité. Mais quand on regarde les sommes, ce sont des œuvres assez dérisoires par rapport aux dépenses de la famille royale et de la reine pour sa suite et pour sa vie privée. Ce qu'il y a, c'est que à l'époque, une bonne partie de l'action politique de Victoria est dissimulée par le fait qu'on ne connaît pas ses interventions épistolaires, ses rencontres avec les ministres, avec les chefs de gouvernement. Tout ça, officiellement, elle n'est qu'une partie digne de la Constitution et elle est en retrait de la vie politique. En réalité, on sait par ses écrits, par de nombreux témoignages qui ont été publiés depuis, il y a une quantité colossale d'écrits sur Victoria, que c'est une reine très politique.
Et alors, pour revenir au cœur de notre sujet, est-ce qu'elle est impérialiste? Est-ce qu'elle a envie, elle, que l'Empire britannique grossisse, s'épanouisse?
Oui, bien sûr.
Elle a une idéologie expansionniste?
Oui, elle soutient... Je connais peu de chefs d'État qui diraient qu'il n'est pas attaché à la grandeur de son pays. Donc, pour la grandeur de son pays, c'est l'expansion coloniale.
C'est pas une évidence. Il y a des chefs d'État qui disaient la grandeur de mon pays, c'est chez moi. Il n'y a pas besoin d'aller sur d'autres continents.
Chef d'État, peut-être les États-Unis, avec encore l'Amérique aux Américains. Bon, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud est l'Amérique du Nord. Mais William Gladstone, qui était son premier ministre à quatre reprises, tu me corrigeras, enfin, si j'en oublie une ou j'en rajoute une. Lui, au départ, était pas du tout impérialiste, mais bon, au moment notamment l'affaire du Soudan en 1884, il était bien obligé de s'impliquer dans les affaires africaines. Bon, je dis que Gladstone n'était pas impérialiste, mais en 1882, il a fait envahir l'Égypte parce qu'il avait investi dans la dette égyptienne et qu'il n'avait pas du tout envie de perdre ses billes.
Bon. Justement, c'était ma question d'après. Est-ce que l'Angleterre est vraiment mue par une espèce de besoins impérialistes, enfin presque missionnaires, pour étendre la civilisation européenne, le christianisme, que sais-je, ou est-ce qu'au fond, ça a toujours été un empire commercialo-militaire?
Alors, l'empire commercialo-militaire, non, pour le 19e siècle, ce n'est plus pertinent. C'est pertinent au 18e siècle, on connaît bien évidemment l'East India Company, mais l'East India Company, lorsqu'elle disparaît en 1858, c'est une coquille vide, hein, elle a perdu le monopole du commerce, etc. Bon. Et puis ensuite, c'est quand même l'exception, les autres compagnies à charte n'ont pas eu le même destin que l'East India Company.
Je vois, Béatrice Laurent, que oui. Vous voulez nuancer.
Je voudrais nuancer, parce que c'est vrai que souvent on pense aux 3C hein, de l'impérialisme, 3Cs, donc Christianity, Civilization and Commerce.
Donc le christianisme, la civilisation et le commerce, pour ceux qui n'auraient pas subi l'influence victorienne et qui ne parleraient pas anglais.
Donc, c'est souvent les deux premiers arguments qu'on met en avant, et il est vrai que la mission civilisatrice, à l'époque, on y croit, c'est la manière dont les scientifiques de l'époque expliquent les différences entre les différents peuples de la planète. La mission de christianisation, c'est très important aussi, et elle est assise par des missionnaires qui vont s'occuper du reste du monde, notamment en Afrique. On pense à David Livingstone, par exemple.
Alors, rappelons-le peut-être, il y a une dimension missionnaire et aussi une dimension anti-esclavagiste chez un Livingstone.
Oui, aussi. Mais en réalité, le troisième, c'est sans doute le plus important, à mon avis, c'est quand même avant tout un empire commercial. C'est un empire où il s'agit
de
faire des placements.
Une quête de débouchés ou une quête de ressources?
Les deux. les deux. Mais je pense que Fabrice a des choses à ajouter.
Oui, puis une quête de territoire, parce qu'en fait, le règne de Victoria, c'est le règne d'une expansion territoriale colossale.
Sidérante
de la Grande-Bretagne. On a parlé d'un cinquième ou un quart des terres émergées. C'est énorme. Et en fait, là aussi, bon, bien sûr, Victoria n'est pas forcément au premier plan, encore qu'elle elle a quand même choisi d'adopter le titre d'impératrice des Indes au milieu des années 1870. Mais en fait, on sait qu'elle est dans les coulisses. Par exemple, en 1857, il y a une grande révolte dans le nord de l'Inde contre la tutelle britannique.
Oui, les Sipayes.
Voilà, la révolte des Sipayes. Ouais. C'est une révolte, en fait, qui a sans doute, par sa répression, fait des centaines de milliers de victimes. On sait que Victoria intervient de façon très vigoureuse pour que des troupes supplémentaires soient envoyées, pour que l'ordre soit rétabli, pour que la couronne britannique, en fait, assoie sa domination sur l'ensemble de la péninsule, oui, du continent indien. Donc, et ça, on pourrait multiplier les exemples.
Même de manière très personnelle. Moi j'étais reporter au Soudan, donc c'est l'endroit où les derviches ont massacré Gordon, le général. Et je me souviens qu'il y a une correspondance de Victoria. Elle pleure à chaudes larmes. Elle injurie ses ministres d'avoir abandonné Gordon.
Oui, Gladstone, notamment.
Elle le suit comme... Enfin, c'est une aventure, quoi.
Tout à fait. C'est vraiment
sauver Gordon.
C'est une reine guerrière. Tout à fait, c'est une reine guerrière.
Donc elle adhère finalement quand même à son
alors,
archétype.
Donc pour ce qui est de la révolte des Sipayes, bon d'accord, mais 1160, c'est aussi l'année où elle fait la déclaration au prince indien en disant que désormais il n'y aura plus d'annexion. Alors qu'en fait, la principale cause cause immédiate de la révolte de 1857, c'est l'annexion de Loudes, sans aucune raison, par les Britanniques l'année précédente, 1856. Ensuite, il faut bien voir que dans le dernier quart du 19e siècle, tous les pays européens se lance dans la course aux colonies. Même justement Bismarck, qui n'était pas un chancelier impérialiste, après 1884, il va essayer de constituer un empire colonial allemand. Simplement, bon, les Allemands arrivent en dernier, donc comme disait François Crouzet, mon maître, ils ont raclé les fonds de tiroir. Et François Crouzet disait aussi qu'à la fin du 19e siècle, les Britanniques, comme tous les autres peuples, l'acquisition de colonies, c'était une sorte de besoin psychologique. Ça fait partie de... Voilà.
Ouais.
C'était indissociable de la notion de puissance. Et puis, je répète quand même que l'Empire n'a jamais constitué ni le premier fournisseur, ni le premier client de l'Empire économique de l'Empire britannique, de la Grande-Bretagne.
Mais là, il y a une phrase de Victoria sur laquelle je suis tombé, qui m'a beaucoup frappé, qui dit « Si nous voulons maintenir notre position de puissance de premier rang, nous devons être préparés à des attaques et des guerres, quelque part ou ailleurs, continuellement. » Ce qui me frappe avec cette phrase, c'est qu'elle ressemble à un certain impérialisme anglo-saxon qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, de George Bush à Trump. Ouais. Est-ce que, selon vous, on peut dire honnêtement que la mondialisation commence avec Victoria?
Ah oui, tout à fait. Enfin, Victoria, c'est après 1970 que ça met en place qu'en contemporaine, en histoire contemporaine, on appelle la première mondialisation, parce que chaque période a sa mondialisation. Mondialisation romaine, les grandes découvertes, tout ça. Donc pour
et
nous,
contemporanistes,
on dit que c'est la première mondialisation. Et c'est vrai. Mais disons, la Grande-Bretagne, à ce moment-là, se trouve dans la situation à laquelle étaient les États-Unis après 1991 et les fondements de l'URSS. Hein. C'est ce que Hubert Védrine appelait une hyperpuissance. C'était le seul pays qui était capable de défendre intérêts partout dans le monde. Il y avait la flotte qui était stationnée, enfin répartie en différentes zones de mouillage, les stations, et qui permettait d'intervenir rapidement pour l'époque. Hein, ce ne sont pas des troupes aéroportées, ce sont des troupes qui sont portées par les navires, mais pour l'époque c'est rapide quand même. Donc il y a vraiment cette très forte puissance militaire qui repose sur la Navy.
Oui, la Grande-Bretagne, c'est à l'époque, c'est le premier investisseur mondial, premier point de vue sur le plan des capitaux, le premier armateur au monde, la première entreprise de télégraphe, donc de communication, y compris des communications militaires, le premier assureur, le premier banquier, la seule puissance en fait qui a une politique mondiale. Et les annexions territoriales, c'est vrai que elles ne sont pas toujours souhaitées, parce que annexer un territoire, ça a un coût. Mais à chaque fois que la question se pose de l'influence du pays, est-ce qu'il faut ou pas pour la maintenir et pour la renforcer, planter l'Union Jack sur un territoire, il n'y a aucune hésitation. Il y a des estimations qui font un inventaire d'environ 200 guerres menées par l'armée britannique au XIXe siècle.
Alors, beaucoup de 200 guerres au XIXe siècle.
Beaucoup sont de ce qu'on appelle des petites guerres. C'est-à-dire, il y a quelques centaines de soldats ou de marins britanniques qui sont... Mais pour les peuples locaux qui sont colonisés, ça peut être des guerres tout à fait dévastatrices.
200 guerres et une vraie défaite, c'est le cimetière des empires, c'est l'Afghanistan. Il y a un endroit, il y a un pays qui a résisté à l'impérialisme britannique. Comment l'a vécu la reine Victoria, cette déroute, ce massacre de la colonne anglaise, dont il y a un survivant
épargné par les Pashtuns pouvoir raconter son...
Ça c'est la légende, il y a eu un peu plus de survivants.
Ah bon ? Quoi, oui. 8, 9
Non, mais c'est en fait, donc l'armée Elphinstone... Mais en fait, l'Afghanistan c'est toujours pareil, que ce soit en 1841 ou que ce soit en 2001.
Le cimetière des empires,
on y entre facilement, on arrive, Kaboul tombe. Quand on est à Kaboul, on montre qu'on n'a rien, puisque toutes les Pashtuns dans les montagnes se soulèvent, ils tombent sur Kaboul. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est repartir.
Se tailler au Pakistan.
Donc voilà, donc c'est le...
C'est la
défaite de l'armée Elphinstone. Mais il y a eu trois guerres anglo-afghanes entre 1841 et 1914-1919, et les Britanniques n'ont jamais gagné. Mais vous savez que le massacre Elphinstone, comme chaque fois que, c'était un déchirement pour la reine, parce que...
Oui, c'est ça, je vous posais la question, comment est-ce qu'elle l'a vécu?
Elle l'a vécu en étant...
Une humiliation personnelle, une souffrance.
Une souffrance, oui.
Je sais que Gordon, elle pleurait.
Oui, une souffrance, mais c'est ça. Parce qu'en fait, elle était... Bon, déjà, on est plus en amont dans le règne, donc elle n'a pas encore évolué vers ses positions conservatrices impérialistes qu'elle aura plutôt après 1870, et lorsqu'elle s'entend très bien avec son premier ministre conservateur d'Israël. Mais oui, elle ressent dans sa chair effectivement les succès et les échecs de la Grande-Bretagne. Et vraiment, on l'a vu. Bon, c'était romancé, mais dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, il y a vraiment une identification entre elle et son pays.
Et alors, justement, quelle est en termes d'identification, quelle est selon vous sa relation avec les peuples colonisés? Est-ce que elle les aime? Est-ce que elle a un sentiment maternaliste, je sais pas comment il faut dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice Laurent? Je vois sourire.
Je pense encore une fois, pour elle, son empire, c'était home. Elle s'intéresse à ces peuples, même si elle n'a pas fait le déplacement vers ces territoires colonisés. Son fils, Bertie, a fait un déplacement. Ensuite, ses petits-fils ont fait tout le tour de l'Empire, mais elle-même n'est pas allée vers eux. En revanche, par exemple, elle avait une enfant qu'elle avait adoptée, la petite Bonetta, africaine. Elle avait également un serviteur indien, duquel on a eu des soupçons, avec lequel on a eu des soupçons de liaison. Mais
donné qu'à l'époque, elle avait déjà une descente d'organes, moi je ne vois pas très bien ce qu'elle aurait pu lui faire. Et en plus, il était manifeste atteint de blénorragie à un stade très avancé. Mais
on parle du fameux Abdul.
Abdul Karim, le
Munshi. Alors ça veut dire quoi un Munshi d'ailleurs? Le professeur.
Il lui apprenait l'ourdou. Et elle était toute fière parce qu'elle savait faire quelques phrases en ourdou ou les prononcer. Non, je pense que
c'est frappant quand même, non, de vouloir apprendre l'ourdou, une des langues indiennes. Ça dit quelque chose sur sa psychologie.
D'autant plus qu'Abdul Karim était musulman et que dans l'Empire des Indes, il y avait quand même des problèmes avec la minorité musulmane. Et donc cette minorité, le gouvernement britannique trouvait qu'elle aurait mieux fait de s'intéresser davantage aux hindous qu'aux musulmans.
I want you to teach me Indian.
Je veux que vous m'enseigniez l'Indien.
Indian.
Hindu, Indian? Whatever it is you speak.
L'hindou, peu importe ce que vous parlez.
Are you sure?
Of course I'm sure.
Êtes-vous certaine?
Absolument certaine.
Mais pourquoi souhaitez-vous connaître l'hindi, votre majesté?
Je suis impératrice des Indes. Regardez, j'ai commandé un carnet. Je veux que vous me donniez des leçons particulières.
I can't teach you Hindi.
Vous enseigner l'hindi est impossible.
Pour quelle raison?
Vous êtes l'impératrice des Indes.
Urdu?
Vous devriez apprendre l'ourdou, la langue des Moghols. Il existe un millier de langues en Inde, mais l'ourdou est la plus noble. Puis, en hindi, vous écrivez un C. Mais en ourdou, vous écrivez un C.
Main
Rani Hun. Je suis la reine.
Je vois.
Mais
Rani.
Rani.
Un hindou lui enseigne la.
Is that allowed?
Est-ce autorisé?
Il faut savoir que c'est de l'ourdou. La version musulmane.
On parle tout puissant.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'écouter un extrait du film Victoria et Abdul de Stephen Fairs, sorti en 2017. traduit en français. Dans la version anglaise, c'est Judi Dench qui joue Victoria. Et donc, ça raconte l'histoire de cette relation étonnante entre Victoria, à la fin de sa vie, et son serviteur, Abdul, qui va devenir son munchi, son professeur, et même son compagnon, et peut-être, selon certaines personnes, son amant. Et pour parler quand même de la postérité de Victoria, mais aussi des limites de son règne, des travers d'une époque peut-être aussi, je me tourne à présent vers Fabrice Ben-Simon. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la Grande-Bretagne au XIXe siècle, notamment de l'histoire sociale et économique du pays. Vous avez co-signé une histoire de la grande famine en Irlande au PUF en 2014 et une histoire des îles britanniques, toujours au PUF, en 2022. La première question, on en a un peu parlé, mais comment est-ce que les peuples dominés, selon vous, perçoivent cette reine? Est-ce que c'est une espèce de figure bienveillante, dure mais enfin sévère mais gentille, qui amène la prospérité, la technologie, le progrès? Ou est-ce que c'est une impérialiste assoiffée de richesses, une pillarde?
Alors, il y a assez peu de sources sur ce que les peuples dominés pensent de la reine Victoria. Elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas en première ligne. Les différentes guerres qui sont menées au nom de l'Empire britannique le sont par des militaires qui eux-mêmes obéissent à des gouvernements, à des premiers ministres, et non pas directement à Victoria. En revanche, alors par exemple, à la fin de son règne, je pense à la guerre en Afrique du Sud, la guerre des Boers, bien à partir de 1899, qui est vraiment une guerre d'annexion de république majoritairement dirigée par des descendants de néerlandais. L'aspect extrêmement, comment dire, cupide, impérialiste de cette guerre apparaît très clairement aux bourgs qui sont impliqués.
Et d'ailleurs, la rend assez impopulaire, au point, si je...
Parmi les bourgs, tout à fait. Oui.
Et même en Europe. Oui. Son gouvernement lui dit qu'elle ne peut pas passer ses vacances d'été à Nice, parce que il y a un sentiment anti-britannique trop vif à son encontre à ce moment-là.
Alors c'est aussi lié, par exemple, quand on parle de Nice, aux tensions très vives qu'il y a entre la France et la Grande-Bretagne. On est peu de temps après Fashoda, en 1898.
Alors, rappelons peut-être Fashoda, il y a quand même le
Fashoda, c'est un quasi...
Français,
voilà, on est au bord d'une guerre entre...
Capitaine Marchand,
voilà,
deux colonnes,
une colonne française, une colonne britannique, pour le contrôle du Soudan. Et on est à une époque où la Grande-Bretagne est dans cette dynamique d'expansion impériale. La France l'est également, mais enfin, on peut dire avec un train de retard.
La France fait un grand trajet ouest-est, voilà, pour schématiser, hein, c'est ça, hein, du Sénégal vers la Corne d'Afrique. Et l'Angleterre a un trajet nord-sud et un trajet sud-nord. Voilà. Et donc, la croisée des chemins, c'est sur le Nil.
Voilà. Donc, la guerre est évitée. Et quelques
de
années
justesse.
Après, voilà, de justesse. Et quelques années après, les deux puissances s'entendent un peu pour contenir l'expansion allemande qui est en germe. Donc, si on regarde le règne de Victoria, c'est une période d'expansion considérable. On a évoqué l'anti-esclavagisme, un des alibis de la colonisation, par exemple, en Afrique de l'Est. Bon, l'esclavage est aboli dans les colonies britanniques peu de temps avant que Victoria monte sur le trône,
oui,
en 1833. Dans les années qui suivent, la Grande-Bretagne se définit comme une puissance anti-esclavagiste. Par exemple, vous avez sur l'Atlantique
des patrouilles
de la Navy qui interceptent les bateaux qui transportent des esclaves d'Afrique vers les colonies, vers les Caraïbes ou vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un élément du discours, cette opposition à l'esclavage fait partie du discours de l'identité telle qu'elle se redéfinit à l'époque. Mais en fait, on sait que d'une part, les bateaux qui sont interceptés par la Navy sont ensuite ramenés dans des ports contrôlés par la Grande-Bretagne, notamment en Sierra Leone, et les esclaves qui ont été, entre guillemets, affranchis, sont fortement incités à aller travailler dans les plantations du Guyana, ou de la Barbade, ou de la Jamaïque.
Il y a toujours ce cynisme, ou disons,
Il y a toute une ingénierie sociale, voilà, de déplacement de population, et l'Inde, en fait, est aussi... c'est vrai que Victoria, c'est un empire qui est très centré sur l'Est, bien plus que les générations précédentes, où l'Empire était centré sur les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Mais l'Empire des Indes, c'est aussi, au-delà de ce qu'on a évoqué sur le plan des ressources et des débouchés, c'est aussi un formidable réservoir de main-d'œuvre. Les engagés indiens, par centaines de milliers, vont peupler les colonies britanniques, où ils se substituent aux esclaves affranchis. Et ces colonies concurrencent avec cet avantage en termes de ressources humaines, les colonies françaises, des puissances rivales, qui, elles, sont privées du trafic d'esclaves et qui n'ont pas accès à cet immense réservoir que constitue l'Inde.
Et est-ce que c'est une particularité, d'ailleurs, de l'Empire britannique de déplacer comme ça massivement les populations de manière volontaire, quand même, enfin, les inciter, mais de transporter des Indiens, de les mettre en Afrique du Sud ou dans l'Est? Parce que Gengis Khan a poussé des peuples devant lui, mais c'était par massacre ou par déportation forcée. En chaîne. Les Anglais ont pensé une forme de mondialisation de la main-d'œuvre.
Alors, c'est pas le seul empire à procéder de la sorte, mais disons que par l'ampleur, c'est tout à fait impressionnant. Alors d'abord, il y a des déplacements de population qui sont entre guillemets libres. C'est-à-dire que, par exemple, des îles britanniques, peut-être 20 millions de personnes émigrent au XIXe siècle, en particulier vers les États-Unis, mais aussi vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud, où souvent ces personnes sont incitées, voire sont financées pour aller peupler l'Empire.
Ou déportées quand c'est des prisonniers.
Déportées, alors c'est une minorité, mais ça fait partie de cette histoire, tout à fait. Ouais. Et par ailleurs, il y a des migrations très importantes, qu'on appelle tropicales, au sud, depuis l'Inde ou plus tard depuis la Chine, vers des colonies britanniques qui ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir se développer et prospérer. Et c'est notamment le cas, par exemple, en Afrique du Sud, au Kenya.
Gandhi lui-même était
tout à fait
en Afrique du Sud.
À l'île Maurice, des centaines de milliers d'Indiens, à Trinidad, au Guyana, à Fidji, etc. On pourrait multiplier les exemples de ces déplacements de population qui sont vraiment consubstantiels au fonctionnement de l'Empire britannique.
Et vous parliez du fait qu'elle était peut-être plus tournée vers l'Est que ses prédécesseurs, mais c'est quand même frappant. Au Canada, par exemple, on célèbre encore, aujourd'hui, en 2025, l'anniversaire de la reine Victoria. Je me tourne vers vous, Philippe Chassaigne, qui considérait quoi comme une fête nationale.
Oui, mais de toute façon, pendant son règne, son anniversaire, c'était une fête nationale. Bon, ensuite, Victoria Day est devenu l'Empire Day, mais au Canada, on a continué à célébrer le Victoria Day.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, au XIXe siècle, les Canadiens savent très bien que c'est grâce à Londres que s'est produit le mouvement qui amène à la Confédération en 1867, et les différentes colonies britanniques d'Amérique du Nord qui étaient auparavant indépendantes les unes des autres, se sont donc rassemblés, ont donné naissance au Dominion du Canada, dont la Constitution, le British North America Act, a été votée par le Parlement de Londres en 1867. Et c'était pour se regrouper, se renforcer face à la menace des États-Unis. Bon, alors Trump veut faire du Canada le 50e État américain, mais au 19e siècle, il y avait un courant expansionniste aux États-Unis qui considérait que, les 13 colonies, c'était pas suffisant et qu'il aurait fallu englober toutes les colonies d'Amérique du Nord britannique. Voilà, en un seul pays. Et c'est pour ça donc il y a eu la fédération en 1867.
Donc les Canadiens l'aiment bien en fait.
Oui, oui. Et puis
continue bien l'aimer.
Et Victoria d'ailleurs à la fin du 19e siècle le nom de Victoria et le prénom de Victoria est donné, je regarde Béatrice parce que sa fille s'appelle Victoria
et nous connaissons aussi, bien entre victorianistes
chez les Québécois francophones qu'anglophones.
Ouais. Béatrice Laurent, je vois que vous êtes vraiment investi dans le sujet. Non, pour revenir sur cette notion de je me tourne vers vous du coup sur cette notion de lien entre ces sujets et la reine elle-même comme incarnation du colonialisme, de l'impérialisme. Si on parle de sa vie privée, donc de sa sexualité même, après la mort de son mari Albert, long veuvage, longue période de dépression, retrait de la vie politique, et puis donc on lui prête quand même deux liaisons. Alors, est-ce qu'elles sont consommées ou pas? Mais ce qui est frappant quand même, c'est que dans les deux cas, que ce soit avec Brown, le domestique écossais, puis avec Abdul Karim, le domestique indien, c'est un homme issu des peuples dominés. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est les domestiques de son... Elle trouve ce qu'elle a sous la main? Est-ce qu'il y a quelque chose à en comprendre de ces relations?
Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. Hein. Donc, l'Écosse, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer l'Écosse comme...
Beaucoup d'amants ou de maîtresses royales, c'est un lord, un duc de l'entourage, enfin, à la cour d'Angleterre. Elle, non, c'est quelqu'un d'un peuple soumis à la couronne
Victoria
britannique.
Victoria ne pourrait quand même pas fricoter avec un membre de la cour. Ce n'est pas possible.
Parce que c'est une femme.
Ben, c'était la reine.
Mais les rois d'Angleterre, enfin, son propre fils...
Mais c'est le double standard.
Cette histoire de double standard, mais de toute façon, encore une fois, c'est une époque, une femme de son temps. Elle a donné son nom non seulement à un empire, mais aussi à tout un état d'esprit. Quand on pense victorien, on pense à des qualités telles que la pruderie, la réserve, le respect des apparences et des conventions. Et ça, c'est quelque chose pour elle qui est très important.
Donc, mais elle a quand même écrit une biographie de John Brown. Elle a quand même écrit un livre en son hommage.
Oui. Disons qu'elle était suffisamment proche de lui pour se demander à avoir une mèche de ses cheveux dans son cercueil. Donc elle a été enterrée avec une mèche des cheveux de Brown. Et aussi avec l'alliance de la mère de Brown, qui lui avait offert, puisque lui ne s'était jamais marié, mais oui, il lui avait offert l'alliance que portait sa maman. Donc, elle a demandé à être enterrée avec ça. En plus, bien sûr, de la main en plâtre, enfin, du moulage de plâtre d'Albert.
Mais donc, quelle était sa relation? Ah oui, il y avait la main en plâtre
d'Albert,
et puis il y avait...
Et la mèche de cheveux de John Brown.
Donc, qui était pour elle?
Qui était un ami très proche. Mais encore une fois, on ne peut pas spéculer parce que c'est vrai qu'au XIXe siècle, il y a une notion de l'amitié que nous avons peut-être perdue. Je pense qu'on tend à sexualiser énormément les choses. On ne peut pas savoir, donc on ne va pas surinterpréter.
Qu'est-ce qu'en pense le biographe
Mon interprétation, c'est qu'un Écossais au XIXe siècle qui ne se marie pas, c'est quand même très surprenant. Mon idée, c'est que John Brown était homosexuel et que la reine Victoria avait d'autres homosexuels dans son entourage, parce que elle était... Elle considérait qu'entre femmes, ces choses-là n'existaient pas. Mais elle savait qu'entre hommes, ça existait. Et à un moment, elle écrit à propos de John Brown, elle a dit que nous parlons chiffon. Enfin, un Écossais des Highlands qui va parler chiffon.
Enfin, en photo, il a toujours un kilt.
C'est pas possible. Enfin, c'est pas sans tomber dans des clichés virilistes ou machistes. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à accepter cette idée. Non, je pense qu'elle avait un rapport amical, une amitié un peu amoureuse. Mais voilà.
Vous vouliez réagir, Fabrice Ben-Simon?
J'ai pas de révélation, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'était que cette affaire John Brown et la façon dont elle a fait couler énormément d'encre du vivant de Victoria,
et
ensuite, c'est aussi intéressant sur ce qu'était cette société. C'est-à-dire que, d'un côté, une femme pouvait être sur le trône, donc on peut dire au sommet de l'État, et puis de l'autre, il y avait quand même ce double standard qui s'appliquait très fortement. C'est-à-dire que autant, en particulier pour un veuf de la famille royale ou de l'aristocratie, les aventures étaient tout à fait plus que tolérées, étaient considérées comme normales.
Normal.
Autant pour la femme qui était Victoria, ça jetait sur elle un opprobre qui était lié à son genre, à ça, et au fait que les exigences qui s'imposaient aux femmes étaient largement supérieures à celles qui s'imposaient aux hommes, quand bien même ces femmes fussent extrêmement dans une position exceptionnelle, quoi.
Et pour rebondir sur cette notion d'amitié, donc l'Empire britannique va continuer même au-delà du décès de Victoria, même si elle en incarne l'apogée, et va évoluer pour devenir ce qu'on appelle le Commonwealth, c'est-à-dire justement une espèce d'amitié entre les nations. La définition littérale serait quoi? Ce serait la richesse commune.
Une communauté.
Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'il y ait, malgré la décolonisation qui va venir, une telle proximité affective, amicale, entre les anciennes colonies et la Grande-Bretagne? Comment est-ce que s'est maintenu ce lien? C'est ce que voulait Victoria? C'est ce qu'elle a célébré avec son jubilé, avec ses défilés?
Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un tel lien. Alors, disons qu'il y a plusieurs cas de figure.
Il y a quand même le Commonwealth.
Tout à fait, le Commonwealth existe. Si vous prenez... Alors aujourd'hui, c'est un lien qui est très souple, qui est extrêmement relâché, le Commonwealth. Mais si vous prenez des pays comme l'Australie ou le Canada, il y a encore une majorité de descendants des migrants britanniques. Il y a toujours aujourd'hui une émigration britannique importante, par exemple, vers l'Australie. Première destination des émigrants britanniques. Après, si vous prenez des territoires comme la Barbade ou la Jamaïque ou d'autres, aujourd'hui, il y a plutôt un mouvement anti-Commonwealth.
C'est quand même un pacte. Il y a 56 nations qui font partie. Donc, il y a quand même un héritage de l'empire colonial britannique qui est toujours là. Personne ne les force à rester. Ils peuvent claquer la porte.
Beaucoup de ces pays ont résilié par exemple, la souveraineté, ont mis fin à la souveraineté du souverain britannique sur leur territoire.
Oui, mais il reste dans le Commonwealth, ça brise quand même.
Il reste dans le Commonwealth. Le Commonwealth est plus un club qu'une association politique. Il n'y a aucune décision politique du Commonwealth qui s'impose au territoire qui le constitue. En revanche, ce qui est, on voit du point de vue de la Grande-Bretagne, on voit bien qu'elle a été l'intérêt au moment de la décolonisation de maintenir cette structure, qui était de chercher à préserver en particulier des liens économiques, des liens d'alliances militaires et diplomatiques avec d'anciennes puissances colonisées, quoi.
Oui, mais l'Inde, c'est Nehru qui demande à entrer dans le Commonwealth, hein, parce qu'il disait que le Commonwealth, enfin, le Commonwealth, c'était Independence Plus, l'indépendance avec un petit quelque chose en plus.
Oui, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que donc il y a quand même un lien d'amitié qui est resté.
C'est la volonté indienne, non ? Je veux dire, c'est vraiment la volonté de l'Union indienne d'entrer dans le Commonwealth. Et je vois justement la force de cette structure, c'est d'être passé du British Commonwealth of Nations, tel qu'il est défini en 1926-1931, au New Commonwealth and Pakistan, ensuite avec l'entrée dans le Commonwealth des colonies non blanches, hein, qui accèdent à l'indépendance.
Oui. Et rappelons-le, au début, en fait,
c'est un club d'hommes blancs.
C'est les colonies de peuplement, c'est le Canada, voilà, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et après ça évolue.
Et l'impérialisme cherche toujours à se réinventer aussi. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, il serait plus possible pour la Grande-Bretagne de dominer politiquement un quart de l'humanité. Donc, il y a d'autres types de liens qui se substituent à
le soft power, ce qu'on appelle le soft power.
En fait partie,
l'influence culturelle, l'influence économique.
En fait partie, même si aujourd'hui la Grande-Bretagne est une puissance de second rang par rapport au statut qu'elle a occupé par le passé.
Et peut-être une dernière question pour terminer cette ombre portée de Victoria. Est-ce que la décolonisation britannique a été un succès par rapport à la française, par rapport aux guerres que la France a pu connaître au moment de sa décolonisation? Ou est-ce que, dans le fond, le divisier pour régner de la politique britannique a distillé un poison lent qui hante encore notre époque, hein? Je pense à la quasi-guerre qu'on a vécue il y a quelques semaines entre le Pakistan et l'Inde, je pense à la situation entre la Palestine et Israël, la guerre civile au Soudan. Enfin, est-ce qu'il y a un péché originel de l'époque victorienne qui continue de hanter notre époque?
Alors, pendant longtemps, on a présenté la décolonisation britannique comme réussie par rapport
à la française,
à la française ou portugaise. En fait, il y a beaucoup de travaux historiques maintenant qui remettent complètement en cause cette interprétation. Par exemple, au Kenya, dans les années 1950, la Grande-Bretagne livre une guerre féroce contre les Mahoma, exactement. Ouais. C'est également le cas en Malaisie. C'est également le cas à Chypre. Et on pourrait multiplier les exemples. Et on peut même dire que, d'un certain côté, la décolonisation n'est pas complètement terminée. Si vous allez en Irlande du Nord aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui considèrent que la définition de leur territoire et de leur lien avec la Grande-Bretagne est héritée de la période coloniale et doit être mise en cause.
Remise en cause de cette reine, de cette impératrice, avec sa part d'ombre, nous amène à notre conclusion, et je vous en remercie, avec le tube Victoria, chanté par des rebelles, que sont le groupe de rock britannique les Kinks, en 1969. Merci Béatrice Laurent, merci Philippe Chassaigne, merci Fabrice Ben-Simon d'avoir été avec moi pour décrypter la figure tutélaire de Victoria. C'était le 9e épisode de notre enquête Les Envahisseurs, une série d'Alfred de Montesquieu, préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Éric Boisset. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli de Radio France.